Bonjour, c'est Charles Bermerian, vous écoutez Pop Pop Pop, c'est parti.
What's up, this is Frank Carr from the Rattlesnakes, and you're listening to Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Décidément, on parle beaucoup des enfants cette semaine. Barbarin, l'abbé de la Morandais et ce soir, Michael Jackson. Car oui, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a donc un lien entre notre Sainte-Mère l'Église et Bambi, entre le roi de la pop et le pape. Et non, ce n'est pas la pipe, enfin pas que. Bon, pipe-pap-pop, ça c'est juste pour vous faire sourire, mais en fait, l'histoire est tout sauf poilante. Enfin, s'il y a des poils, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une histoire affreuse, insupportable, puisque le fameux lien, eh bien, ce sont justement les enfants auxquels tout le monde suscité s'intéresse d'un peu trop près, le couvant même d'une tendresse, comme dit l'abbé de la Morandais, toute diocésale. Le doc, diffusé ce soir sur M6, intitulé Living Neverland, a provoqué une onde de choc partout où il a été diffusé, au grand désespoir des fans de Bambi, au point que l'un d'entre eux, un ouvrier anglais de 38 ans, qui s'était fait rebaptiser Michael Jackson en hommage à son idole, a décidé de changer à nouveau de nom et de reprendre son nom d'origine, qui est malheureusement pour lui John Barbarin. Comme quoi, comme disait Michel, on n'en sort pas. Bon, changeons-nous les idées, ouvrons les fenêtres et parlons des talents d'aujourd'hui qui nous consoleront des indélicatesses de ceux d'hier. Mode et musique à l'honneur aujourd'hui dans Pop 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 avec Marine Serre et Malik Djoudi.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Au menu de Pop Pop Pop, la nouvelle chérie de Paris selon le New York Times. Bonjour Marine Serre.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans ce studio. À mes côtés, la nouvelle chérie de Picardie selon le courrier Picard. Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Marie.
Au menu également de Pop Pop Pop, lui.
J'aime les gens tant que mon tempérament.
Moi aussi j'aime les gens et lui c'est Malik Djoudi et il sera en live sur la scène mythique de Pop 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 pour nous jouer son morceau Belle Sueur et puis une reprise du morceau de Sabrina Boys Boys Boys. Et oui, c'est aussi ça, la pop culture. Mais justement, avant ça, Marine Serre, ici, il existe une question qui peut être encore plus déstabilisante qu'une réponse de modeur à une question géopolitique.
Est-ce que vous savez ce que c'est Alep ?
Alep ? Non. Ça pourrait être éventuellement le nom d'une création, sûrement. Un sac, peut-être.
Et cette question, c'est... Pour vous, Marine Serre, c'est quoi la pop culture ? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses Anna Wintourienne, Jean-Paul Gaultiesque, Paul Smith-Siv ou plus simplement fashion modisante. Et parmi mes préférées, il y a celle de François Hollande qui partage avec vous deux points communs. Vous les connaissez, Marine Serre ?
Oui, j'imagine la Corrèze.
Et puis ? Bah, la mode, bien sûr.
C'était bon. Moins évident.
Enfin, écoutez sa réponse.
Bah, la pop culture, je pense que c'est celle que moi j'ai pratiquée... assez jeune, mais qui ne m'a jamais lâché, c'est-à-dire la culture d'une forme de liberté, aussi bien sur les tons, les formes et les inventions. Donc, pour moi, être pop, c'est être d'abord populaire, c'est-à-dire capable de parler à tous et de le faire avec toutes les formes de liberté possibles.
Voilà pour François Hollande et pour vous, Marine Serre.
Alors, là où je serais d'accord, c'est pour dire qu'en effet, la pop culture, c'est supposé être populaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout, pour moi, la pop culture, en fait, c'est tout. Parce qu'en fait, tout ce qui est populaire est supposé appartenir à tout le monde. Donc, je dirais que ce que je préférerais entendre, c'est que, voilà, la musique classique, c'est aussi populaire. Et donc, ça fait aussi partie de la pop culture. Je répondrai ça comme ça.
Bien. Charline, ça vous convient ?
C'est très bien.
Je suis obligé de demander à Charline, ouais. Toujours, si ça ne convient pas, sinon on ne peut pas continuer l'émission. Bien, alors on va parler de pop, de culture, de pop culture, de catwalk et de haute couture dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le tout nouveau morceau des Black Keys qui s'intitule « Low High ».
Bye.
rock américain des Black Keys dans Pop 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 avec ce tout nouveau morceau Lo-Hi. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée dont les vêtements sont portés par Kendall Jenner, et heureusement pour elle que ce n'est pas l'inverse, sinon elle n'aurait pas grand-chose à se mettre sur le dos. Mais qui est donc cette invitée? Alors réponse avec son pop portrait. Votre pop portrait, Marine, c'est votre portrait, bien sûr. Mais... voilà, il part tout seul maintenant. Et c'est signé Charline Rourourou.
Attaquons de suite par un jeudi confession. Quand j'étais petite, à la préhistoire, donc, je regardais San Kukai. Et n'ayant pas de déguisement pour singer la tenue du guerrier Hayato, j'enfilais une cagoule, des vieux collants sur les bras et sur les jambes pour imiter mal la combinaison du héros. Je vais regretter à vie cette anecdote, hein, je le sais. J'ai gardé de cette astuce vêtements et récession un goût certain pour le douteux, disons-le. Cette laborieuse anecdote, hein, pour vous dire que notre invitée, elle, de sa passion enfantine pour le vêtement vintage, chiné voire chippé dans la garde-robe de ses aînés, elle a fait un art et un métier. Elle recycle, elle transcende, elle transforme. Et de son passage par les cours de tennis, elle a gardé un amour certain pour les matières propres au sportswear. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois dire aussi. Formée à la Calade à Marseille, diplômée de la Cambre de Bruxelles, premier prix du concours LVMH, notre invitée est du genre instinctive, inventive, bonne élève et engagée. De mode, sans nécessaire futilité, mais sans gravité non plus, c'est ce dont nous allons parler avec Marine Serre, notre invitée.
Ouh, merci. De mode, sans nécessaire futilité, mais sans gravité, c'est ce dont nous allons parler. On est bien d'accord? C'est de cela dont nous allons parler?
C'est très bien.
Ok, alors c'est parti. Marine Serre, c'est l'heure de fouler le catwalk de la pop culture. Hop. Ah. Voilà, ce jingle est parti. Au bon moment. Bien, je félicite Ghislain Fontanus, notre réalisateur. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Et pour le livre, vous avez porté votre choix sur Sapiens. Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité, livre écrit par Yuval Noah Harari en 2011. Alors Charline, je sais que votre amour de la sieste vous fait préférer Sapiens, hein, Sapiens. Mais pouvez-vous quand même nous en dire un mot? Allô?
Ah pardon, oui, je m'étais assoupie. Oui. Alors, ben, pourquoi sommes-nous, Homo sapiens, la seule des 6 espèces hominidées présentes il y a 100 ans à avoir survécu? Qu'avons-nous fait de cette survie? Comment en sommes-nous arrivés à créer des concepts comme la religion, les droits de l'homme, à dépendre de l'argent, des livres, des lois? À quoi sommes-nous voués, à part l'hégémonie? Beaucoup de réponses dans le livre de Yuval Noah Harari.
Marine, vous allez nous expliquer pourquoi ce livre vous plaît tant, mais d'abord, vous allez nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît.
Alors... Les hommes archaïques aimaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir. Mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n'avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginaient que leurs descendants marcheraient un jour sur la Lune, scindraient l'atome, souderaient le code génétique et écriraient des livres d'histoire.
Marine Serre, qu'avez-vous découvert ou appris grâce à ce livre dont le monde entier a salué l'intelligence et la profondeur de vue?
Ouais, ben, je crois que c'est à peu près la même chose pour moi. Je crois que j'ai beaucoup aimé le lire parce que j'ai trouvé à la fois une simplicité et des réponses assez simples à des questions assez, on va dire... qui prennent du temps à répondre, et je pense surtout pour, voilà, moi j'ai que 27 ans, donc je sais pas, quand j'ai lu ce livre, je cherchais sûrement des réponses, et je crois qu'il m'en a donné, et même si souvent il ne donne pas des réponses au premier degré, au moins il donne une sorte de source, et je crois que c'est ça que j'ai apprécié. Voilà.
Vous êtes plus essai que roman?
Oui.
Ok. Alors, nous allons passer maintenant au film. Et pour le film, vous avez choisi Doom Generation, réalisé par Greg Araki, sorti en 1995. Charline, si je ne m'abuse, il s'agit d'un Jules et Jim Destroy, tendance cauchemar psychédélique. Ou bien m'abuse
C'est une manière de voir les choses, Antoine, je ne vais pas vous contredire. Deux ados, Jordan et Amy, croisent la route de Xavier, un homme mi-ange, mi-démon, qui les entraîne dans une sorte de cauchemar surréaliste.
I feel really weird tonight. Like something's gonna happen.
Me too.
Now be 666.
Pick up, girlie.
What are you gonna do, shoot us?
Scram! I love you, darling. He said you love me.
You know that I really only love you.
I love you!
I love you can mean a lot of things.
Doom Generation de Greg Araki. Pourquoi ce cauchemar donc mi-psychédélique, mi-surréaliste, Marine Serre?
Quand j'ai reçu vos questions, je me suis dit film culte, c'était assez délicat. Je me disais, j'en aurais plusieurs. Mais je trouvais que celui-là, il m'avait marqué d'une certaine manière, je pense par une certaine folie. Je crois que c'est aussi un truc très 90 qu'on ne trouve plus vraiment aujourd'hui. Et je trouvais qu'il y avait... Il y a plusieurs sens dans ce film et même si voilà il est très premier degré, il y a toujours un second degré, une sorte de d'ironie aussi dans les images que je trouve assez chouette et voilà, en fait il m'a marqué du coup, alors je me suis dit qu'il devait être forcément culte.
Très bien, nous avançons avec la série, et là la série c'est Twin Peaks de David Lynch, évidemment diffusée entre 90 et 91. Charline, on a souvent parlé de Twin Peaks dans Pop, une série incontournable s'il en est. Je vous mets à nouveau au défi de nous dire de quoi ça parle. On vous écoute.
Une fille dans un sac, dans une ville chelou, avec aussi une femme avec une bûche, un homme venu d'un autre endroit, une loge noire, et j'ajoute des tartes à la cerise.
Where am I? And how can I leave?
Where's my axe? I'm hungry!
What happened?
I don't know. Sheriff Truman just brought her in from Glastonbury Grove.
Moi aussi j'ai faim.
Vous faites partie de la secte lynchienne, Marine?
Oui, tout à fait. Dès le début.
Cauchemar mi-psychédélique, mi-surréaliste dont on parlait avec Doom Generation, on y est encore là avec Twin Peaks.
Tout à fait. Mmh.
Et la dernière saison y compris ?
J'ai pas vu la dernière saison en fait.
Alors qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette étrangeté, cette bizarrerie ?
Moi je trouve pas ça super bizarre, c'est peut-être moi qui suis très bizarre à la base. Je trouve que pareil, il y a presque même un romantisme qui s'échappe de tout ça, et je trouve qu'il y a, je saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas je me sens bien quand je regarde cette série-là, et en tout cas je peux faire des liens. Je crois que c'est souvent ce qui fait qu'une série est culte ou pas pour nous, c'est quand on peut s'y rattacher.
Absolument. Enfin, Marine Serre, on va terminer cette pop liste avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci. There Will Never Be a Better Time du groupe The Desert Sessions. C'est une chanson écrite par PJ Harvey, sortie sur l'album The Desert Sessions Volume 9 en 2003. Alors est-il abusif, Marine, de dire qu'il s'agit d'une chanson légèrement dépressive, bien que, matinée d'un entraînant tempo qui n'est pas sans rappeler le flamenco?
Pareil, mais je pense que c'est assez juste que ça soit dans le film que je vous ai donné ou la série. Il y a un petit côté dépressif, mais je vois ça très positivement, comme notre dernier show Radiation, qui n'est pas que de mauvaises ondes.
Mais alors, c'est PJ Harvey qui vous intéresse, ou vraiment le concept même des Desert Sessions, collectif lancé par Josh Homme?
Le collectif aussi, que j'aime beaucoup, mais PJ aussi. Donc, je pense que c'est le mix des deux, la rencontre aussi, assez fabuleuse. Et voilà.
Le désert, parce qu'enregistré dans le fameux ranch
De Josh Homme.
D'accord. Alors, je résume: Sapiens, Doom Generation, Twin Peaks et The Desert Sessions. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
I feel really weird tonight.
Yes. Where am I?
Never be on a better time.
And how can I leave?
Oh, I love you! Where's my axe?
I love you can mean a lot of things.
I'm hungry!
Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginait que leurs descendants écriraient des livres d'histoire.
Est-ce qu'on peut parler d'upcycling?
Oui, c'est pas mal.
Ça vous convient?
Oui, très bien.
Ok, alors on continue. Qu'est-ce que c'est que l'upcycling, une de vos méthodes de création? On va en parler dans la suite de Pop, juste après un morceau de Michael Jackson, pendant qu'il en est encore temps. On écoute Beat It. Non?
Non.
Beat It?
Non.
Non, alors bon, ok. Shake Your Body, voilà, c'est mieux.
Let's shout, shout. She can fight it out to the ground. Let's dance. Let's shout, shout. She can fight it out to the ground. Something to get closer to your soul, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground.
Check Your Body, Michael Jackson avec les Jackson 5. C'était en 78 sur l'album Destiny. Et si l'on en croit le documentaire diffusé ce soir, il ne s'est pas contenté de secouer son corps à lui. Alors vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Marine Serre, je le disais en début d'émission, le New York Times parle de vous en disant que vous êtes donc la nouvelle chérie de Paris. Arte parle de mode du futur, le magazine Elle est fasciné par votre couture hardcore, et les médias russes disent
« Бренд Marine Serre запускает мужскую линию ».
Est-ce que vous vous y retrouvez?
Ouais, je crois. C'est plutôt pas mal.
Alors certes, il y a pire que cette avalanche de compliments, mais comment est-ce qu'on réussit à rester focus sur son travail quand on se retrouve ainsi plébiscité et en plein cœur du réacteur ?
Je crois que pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je viens, voilà, je viens de la campagne et je ne me suis jamais laissée enflammer. Donc j'imagine que demain, ça ne sera toujours pas le cas. Et puis, je reste les pieds sur terre.
Mais tout est allé très vite pour vous, Marine. En 3 ans, 3 collections, vous êtes passée du statut de fraîche diplômée à celui de la styliste la plus courtisée du moment. Est-ce que vous avez réussi à analyser ce qui plaît tant dans votre travail ?
J'essaie, en tout cas. Je pense que la première chose, ça serait sûrement justement cette... à la fois cette honnêteté et le fait que, comme je dis souvent, j'ai pas grand-chose à perdre, voire même plutôt rien. Donc en vrai, je m'en fous. Et j'ai toujours tout fait, fait tout ce que j'ai commencé avec beaucoup de passion, et que ça aurait été voilà, la mode ou autre chose, je l'aurais fait avec la même envie et la même sincérité. Et surtout, voilà, aujourd'hui, c'est aussi une équipe qui est autour de moi. Je suis pas toute seule. Du coup, c'est aussi pas difficile de... garder les pieds sur terre. Après, oui, c'est un exercice, mais c'est un chouette exercice.
Lors de votre défilé prêt-à-porter automne-hiver 2019, intitulé Radiation, vous le disiez, on a pu voir des combis intégrales, hein, logotés, portés seuls ou accompagnés, des vestes cuir ou doudoune ceinturées portées sur leggings, des vestes robes one shoulder, des capes, des robes à motif biohazard, du tartan, du vert, du rouge, des coquillages, des manches et des bordures de capuche en poil fourrure. Quelle histoire est-ce que vous avez souhaité raconter ?
L'histoire d'une radiation. Le show se passait dans des caves à vin, un souterrain avec une seule issue de secours et des voûtes de 3 mètres de hauteur en craie. Du coup, c'était vraiment l'idée d'exprimer une fin du monde peut-être plus proche que ce qu'on l'imagine, et donc d'amener tout le monde dans une sorte de souterrain dans lequel il y aurait une sorte de résistance qui commencerait à émerger. Et donc c'était justement ce show dont vous venez de parler.
Un petit côté Fury Road par certains aspects, ouais. Si je peux me permettre.
Parler de Mad Max, là.
Oui.
Le logo que vous avez choisi, et que je vois d'ailleurs sur la tenue noire que vous portez aujourd'hui, c'est un croissant de lune. Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir décroché, la lune, en si peu de temps ?
Non.
Est-ce que la lune est faite pour être décrochée ?
Non. Et j'espère pas. Enfin, en tout cas, c'est pas le but. Qu'elle reste là où elle est très bien.
La femme à laquelle vous vous adressez, dites-vous, n'a pas d'âge ou de physique précis, mais elle doit assumer ne pas avoir peur. Alors, vous n'avez pas de muse. Je sais que la question va être compliquée, mais est-ce qu'on peut vous demander qui symbolise le mieux cette femme téméraire, selon vous ?
En dehors de Charline Roux, bien sûr.
Non, bah, vraiment pas, là, pour le coup.
Justement, pourquoi pas ?
Trouillarde 100 000.
Ça n'a pas l'air. C'est une question super difficile, parce que j'ai pas envie de définir un seul visage. Ni un seul corps d'ailleurs, et
pas forcément un personnage réel, hein, mais ouais. Même peut-être dans la fiction ou dans
Joséphine Ange Gardien.
Ok, ça me va.
Wonder Woman.
Pour la taille.
C'est vrai que vous n'êtes pas très grande. Vous êtes haute comme trois pommes. Vous avez vécu dans des villes multiculturelles comme Marseille et Bruxelles. Le croissant, les femmes que vous cagoulez dans les défilés, ce sont les influences d'une culture arabe dans laquelle vous avez baigné ?
Oui, je pense que... et puis je suis pas la seule, et c'est quelque chose qui fait partie de la Belgique ou de la France aujourd'hui. Donc... enfin, j'ai rien à cacher et voilà.
Oui, mais alors du coup, Marine, cagouler des femmes dans des défilés, ça crée des polémiques. Et, ouais. Parce qu'il y a des polémiques pour tout hein, aujourd'hui, comme ouais. Me le disait encore hier Victor.
Victor ?
Oui, Paul Émile Victor. Est-ce que la mode, c'est aussi un endroit d'où l'on peut, d'où l'on doit parler des sujets chauds du moment ?
Pour moi, c'est pas juste l'idée du sujet chaud, parce qu'il y a des sujets chauds dont moi, je m'intéresse pas vraiment, mais c'est plus, on va dire, si le sujet est intéressant, et entre autres, voilà, est-ce que se couvrir le visage, c'est forcément avoir une religion ? Est-ce que, voilà, moi, comment dire ? Est-ce que mettre un catsuit intégral, ça a ses limites excusez-moi, je perds un peu le fil.
Est-ce que ça a une incidence ?
En fait, c'est plus l'idée d'ouvrir les barrières, en fait, d'ouvrir les préjugés, justement que ça ne soit pas mentionné comme quelque chose d'interdit ou de... différent, en fait. C'est l'idée de...
Encore une fois, de banaliser toutes les silhouettes.
Voilà, c'est ça. De pas... C'est ça.
Mais par ailleurs, c'est quand même un sujet chaud du moment.
Oui.
Marine, donc vous reflétez ça. C'est la question que je vous posais.
Oui,
la mode est aussi là pour refléter l'air du temps, le fameux air du temps.
Oui, tout à fait. Puis de toute façon, la mode, c'est ça à la base. La définition de la mode, pour moi, c'est aussi s'imprégner et savoir... lire ce qui est autour de nous et faire une sorte de tri d'informations. Enfin, c'est souvent au début d'une collection, c'est ce qui se passe. On s'imprègne de tout, de beaucoup, beaucoup de choses. Et je dis souvent, j'ai l'impression d'être une sorte d'éponge qui ensuite s'essore, mais justement en gardant juste certaines parties, quoi.
Pour vous, Marine Sarr, le vêtement a une fonction qui dépasse l'esthétique, alors laquelle ou lesquelles ? Et qu'est-ce que ça implique en termes de création ?
Pardon, qui dépasse l'esthétique, c'est
oui,
ça le début de la question ?
Le vêtement a une fonction qui dépasse l'esthétique.
Oui, parce qu'il a une fonction, une fonctionnalité qui est d'être porté, qui est d'être pratique. C'est vrai que je défends souvent le fait qu'une femme ou les vêtements faits pour les femmes sont assez inconfortables ou pas pratiques ou on se sent souvent pas très à l'aise. Du coup, j'essaie vraiment de travailler aussi autour de ça, autour du confort, de la fonctionnalité, de qu'est-ce qu'un vêtement et à quoi un vêtement doit répondre.
Je le disais tout à l'heure, une partie de votre processus de création s'appelle l'upcycling, que je traduirais bêtement par recyclage. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer plus précisément ce que c'est que l'upcycling ?
Ouais. En fait, l'upcycling, c'est quelque chose que j'ai commencé assez tôt parce que quand on n'a pas d'argent, c'est plutôt pratique de faire de l'upcycling. Donc, je chinais, je trouvais des tissus ou des vêtements usagés et je venais créer de nouvelles silhouettes, de nouvelles formes à partir de ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais à une plus grande échelle, ce qui complexifie un petit peu la tâche, parce qu'on a plus de 10 000 pièces en vente. Donc, ça commence à faire du travail. En fait, l'upcycling, c'est tout simplement, en fait, on récupère en warehouse des tonnes de jeans ou de t-shirts ou de, par exemple, de foulards en soie sur la dernière collection, qu'on vient trier un par un. Laver et ensuite qu'on reconstruit un tissu, donc on vient coudre ensemble toutes les pièces de soie et puis ensuite uniquement on vient monter le vêtement, donc c'est ça l'upcycling.
Mais c'est aussi une belle manière de tordre l'adage qui veut que la mode soit un éternel recommencement.
Là, tout à fait.
C'est vrai, mais on change tout à chaque
Exactement.
Fois.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous le dites, on ne peut pas continuer à faire de la mode comme si cette industrie n'était pas la deuxième la plus polluante de la planète.
Exact.
Ce que les gens ignorent souvent.
Ah bon ?
Ah ouais. Non, mais la mode, ouais. L'industrie de la mode, enfin du prêt-à-porter, ouais. C'est la deuxième industrie la plus polluante. Donc c'est ça, on ne peut plus faire comme avant, quoi.
Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, les premières questions que je me suis posées, c'est ok, pourquoi t'es utile et pourquoi pas un autre que toi ? Et c'était des questions qui étaient importantes pour moi et qui m'ont donné aussi envie de continuer. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que 50% de mon temps est consacré à justement créer ces lignes de production parce que c'est aussi très rare de trouver des personnes qui ont envie de travailler avec vous et de mettre les mains dans l'upcycling. C'est fun, mais c'est pas toujours très pratique.
Question à la Laura Adler. Marine Serre. Est-ce que le vêtement est politique ?
Alors moi je dirais que tout est politique, donc oui, le vêtement est aussi politique.
Bien. Marine Serre, votre inspiration vient de partout, comme par exemple, j'ai pas besoin d'un trajet en métro, vous avez même imaginé une veste dans laquelle on peut ranger une carte de la RATP. Vous croisez beaucoup de modeuses dans le métro ?
Ben, j'espère que j'en causerai un peu plus.
Alors, qu'est-ce qui vous attire en premier lieu chez les gens que vous croisez qui peuvent vous inspirer ? C'est le look en soi, c'est l'attitude, c'est le petit détail qui est censé faire mouche. À quoi est-ce que vous êtes sensible ?
Je pense les trois. C'est un ensemble de choses entre tout ce que vous venez de dire. Il n'y a pas quelque chose qui marque. Après, j'imagine des fois, c'est plus l'un que l'autre. Mais c'est assez simple et au ressenti, j'imagine.
Vous dites, Marine Serre, je vous cite, j'ouvre les guillemets, « La mode aujourd'hui est très rapide et on se lasse très vite. Du jour au lendemain, c'est tac, puis boum. » Je ferme les guillemets. Je parlais de pip-pap-pop dans mon monologue, mais pouvez-vous développer votre image de la mode ?
Je ne me rappelle pas si j'ai dit pip, mais bam et boum. But ok, on va essayer. Oui, en fait, je pense que aujourd'hui, on est dans un système qui n'est pas forcément évident parce que on est entouré de très grosses maisons qui vont très très vite. On voit jamais l'envers de la mode, c'est-à-dire ce dont je parlais, la production et entre autres la production avec l'upcycling. C'est des choses dont on parle pas, alors qu'en fait, c'est 80% de notre temps passé sur ce genre de processus-là. Quand je mentionne pim pam poum, je veux aussi dire, du coup, à quoi ça sert d'avoir une jupe rose et puis la saison prochaine bleue. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, j'essaie juste, en disant pim pam poum, de donner du sens à ce que je fais. Et pour moi, et puis j'espère pour une petite, pour d'autres, j'espère.
Mais alors, être radical dans une industrie comme celle dans laquelle vous officiez, c'est compliqué ou c'est très compliqué ?
Je préfère dire que c'est juste compliqué, mais en fait, je pense que c'est très compliqué parce que ça demande, beaucoup de courage et une certaine honnêteté. Mais je pense que si on a envie de vivre comme ça, moi, je le fais avant tout, pour moi et mon équipe, et j'espère que d'autres personnes seront touchées. Et
Je le disais, on parle de vous comme du futur de la mode, Marine, mais étrangement, vous faites appel à des modèles comme Vladimir, qui défilait pour Gaultier hein, dans les années 90, ou Amalia, qui était le mannequin préféré de Yves Saint Laurent. Peut-on parler de... Retour vers le futur, Marine.
Pourquoi j'ai choisi ces modèles-là? Parce que je trouvais que c'était des gens justement qui symbolisaient la mode, qui symbolisaient un moment. Et je trouve ça, pour moi, rien se démode, tout revient et disparaît. Et donc c'était un peu le... Enfin, je voyais pas moins de sensibilité ou moins de force en Amalia aujourd'hui qu'avant. Ouais. Et puis peut-être, en fait, c'est encore même mieux maintenant. et voilà. Et en plus de ça, c'est des personnes, enfin surtout Amalia que maintenant je connais bien, qui sont vraiment qui sont vraiment super en fait.
Bien.
C'est chouette de travailler avec eux.
Et pour finir, Marine Serre, nouvelle question à la Laura Adler. La mode. Ne serait-elle pas un éternel recommencement ?
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord.
Merci Marine Serre. Est-ce que vous savez faire ça ?
Non.
Comment ça non ? Vous voulez même pas essayer ? C'est pas mal. Si, j'ai un petit pop de débutant, mais ça va s'arranger tout ça. De toute façon, c'est juste pour lancer les pop news.
Avis aux fans de Game of Thrones, la quête est lancée sous le hashtag For the Throne. 6 trônes de fer ont été cachés à travers le monde aux fans les plus furieux de les retrouver et de s'y asseoir. 2 ont été dévoilés en vidéo, l'un dans une forêt, l'autre couvert de neige. Les détails et vidéos sont à retrouver sur www.forthethrone.com.
Winter is coming.
Leonardo DiCaprio en star de la télé, Brad Pitt en cascadeur et donc doublure du premier. Le tout dans le Hollywood de la fin des années 60, c'est déjà assez bien pour éveiller notre curiosité. Mais viennent s'ajouter Margot Robbie en Sharon Tate, Al Pacino en Marvin Schwartz, des apparitions de Tim Roth, Michael Madsen, Kurt Russell, Dakota Fanning et même Luc Perry, le tout devant la caméra de Tarantino. Et alors là, bah on dit oui, nous.
So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does.
Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load.
Is that how you describe your job, Cliff?
What, carrying his load? Yeah, it's about right.
DiCaprio et Pitt, les deux héros de Once Upon a Time in Hollywood par Quentin Tarantino, ça sortira le 14 août au cinéma.
3 ans après Game Show, le trio irlandais Tudor Cinema Club dévoile un tout nouveau single intitulé Talk. Le single Talk, assorti d'un clip des plus chatoyants qu'on vous mettra évidemment sur la page de Pop Pop sur franceinter.fr, et le groupe sera le 26 avril à l'affiche du festival Musilac Montblanc.
France Inter. Pop Pop. Antoine de Paul.
I'm hungry.
Oui.
Mais oui.
Bien sûr, tout à fait.
Chicapou.
Chicapou, bien sûr.
Merci, Charline. Marine Serre.
Je m'attendais à un Ned Stark ou un truc comme ça, mais pas du tout, en fait.
Bougez pas, Marine Serre, avant d'accueillir le chanteur Malik Djoudi. On l'écoute avec ce morceau Tempérament.
Je les ai en bleu jean. J'aime la vie. J'aime les gens tant que mon tempérament se désiste des autres troubles entêtantes tant que mon tempérament.
Mon tempérament
Tempérament dans Pop Pop sur France Inter, c'est un morceau signé Malik Djoudi, extrait de son deuxième album. Malik qui vient de faire son entrée dans le studio. Bonjour Malik Djoudi.
Bonjour Antoine.
Malik Djoudi, Marine Serre, Malik Djoudi. Alors voilà, un poids de vin qui rencontre une corrézienne, encore une preuve que nos régions ont du talent, comme disent les pubs. Super, ça ferait une bonne musique de défilé, Marine Serre, ce que nous venons d'entendre.
Ouais.
Ça pourrait vous plaire ?
Ça pourrait me plaire, ouais.
Voilà une porte qui s'ouvre. Malik Djoudi, j'aime bien mettre mes invités à l'aise. Mm-hmm. Je sais qu'il y a une question que je n'ai pas le droit de vous poser, donc je vous la pose tout de suite.
Ouais, ça sera fait. Ça fait. Ouais.
Alors, je sais que vous avez composé le générique d'une des premières télé.
Bien joué.
Est-ce que c'était celle-ci ?
Non.
Celle-ci ?
Non. Cool.
Ou celle-là ?
Non.
Aucune des trois.
Aucune des trois.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est quoi, ça?
On se sera moqué de moi. C'était laquelle?
Allez, je vous le lance. C'était Up and Down, la chanson du Loft.
Des Lofters?
Mais ouais! Vous avez tous écouté ça.
Mais bien sûr, évidemment. Okay. Alors, est-ce que c'est cette expérience qui vous a donné l'idée d'arrêter la musique juste avant le succès de votre titre Sous Garantie, il y a 2 ans?
Non, mais c'était un tout autre travail, ouais, de faire ce genre de truc. C'était assez alimentaire, en fait. J'y prenais plaisir. C'est comme ça que j'ai appris à faire des... à mixer ou je recherchais, mais c'était vraiment, c'est pas du tout le même métier.
Malik Djoudi, pour vous, la chanson, c'est comme la peinture.
Ouais.
Chaque détail compte. Ainsi, vous pouvez passer, dites-vous, 6 mois pour trouver les 3 mots qui manquent dans les paroles d'une chanson. Mm-hmm. Vous devez être content de venir nous présenter Tempérament, un album sur lequel vous travaillez depuis 97.
96, exactement. ouais, mais ça arrive, quoi. On peut écrire genre 20 lignes en 4 heures et il y a 3 mots qui sont pas là, qui n'arrivent pas. Et j'en parle avec d'autres gens, ils m'ont dit, ouais, pareil.
Enfin, bien sûr. Et d'une manière générale, c'est un processus qui vous prend du temps, l'écrire, écrire, arranger, composer.
Ouais,
tout.
Ouais. Puis j'aime bien ça, j'aime bien écouter ce qui se passe, réfléchir. Et parce que la musique m'arrive de la tête, quoi. J'imagine les choses et les voilà. Enfin, et ça arrive comme ça. Et j'aime vraiment me poser, écouter, prendre le temps. Ah tiens, ça c'est... peaufiner, quoi. Comme une poêle. Peaufiner, j'aime bien ça.
Alors, mon côté Maître Capello, sans doute, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le tempérament qui donne son titre à l'album est au pluriel et celui du single au singulier. Pourquoi donc?
J'ai décidé ça parce que Tempérament, c'est le premier morceau que j'ai fait, qui a dessiné un peu l'album. Et pour moi, il a compté, c'était vraiment le point de base. Et j'ai trouvé ça cool, enfin pas cool, non, je trouve ça cool, bien pour moi, d'appeler l'album Tempérament au pluriel, et d'avoir ce morceau, et parce que cet album pour moi est vraiment plusieurs facettes de moi-même où je joue avec moi, je raconte ma sensibilité, parfois je me prends sérieux, parfois moins, donc c'est des plusieurs facettes de moi-même.
Avec le tempérament du jour.
Là, ici même, franchement cool, ça va.
Avec une dominante bleue, comme sur la pochette, ce portrait magnifique.
Oui, bleu.
Vous aimez le bleu, Marine? Non, mais non, c'est une question. Oh,
c'était
mais non.
La saison dernière.
C'était la saison dernière. C'est
saut 2018, quoi.
Ben, oui. Bon, Malik, Djoudi, avant de continuer à parler de Tempérament, votre nouvel album, qui sort demain, je vous propose de rejoindre la scène mythique de Pop 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 pour nous jouer Belsmer.
Très bien, je vais faire ça. Et c'est la première fois que je fais ça, guitare-voix. Le morceau est normalement très électronique, mais ça me plaît de le faire comme ça. Voilà, donc j'aurais dit 2 choses. L'émission, la télé-réalité.
Ouais. Ouais. Ça. Non, attendez, vous revenez après.
Oui,
allez-y, mettez-vous en place. Et dès que vous êtes prêt, vous me faites un petit signe et je vous envoie le pop de départ. Là, il met son casque, il attrape sa Gibson blanche absolument splendide, modèle SG. Voilà, il s'ajuste devant le micro, il me fait un petit signe, et c'est parti.
Oh, j'ai peur du loup, encore peur du vide. J'ai peur, j'avoue, être un peu fragile, mais j'aime bien. J'aime bien. Être un peu voyou, quelquefois, par-dessus tout, entre toi et moi,
Venez nous rejoindre, j'en ai pas fini avec vous, Malik Djoudi, en live sur la scène de Pop Pop Pop. C'est une version donc guitare de Belle Sueur, très différente de celle de l'album.
Et sur cet album, on peut entendre, Malik, une autre voix que la vôtre sur Tempérament, en l'occurrence sur cette chanson.
Alors on était censé entendre un extrait du duo avec Étienne Dao à tes côtés.
Attendez, regardez, si je lui demande poliment, Ghislain Fontana, on peut avoir un extrait s'il vous plaît du duo avec Dao? Merci.
Que non.
Allez-y.
Posé à tes côtés, nous n'avons plus peur de rien. C'est bon, ne t'en veux pas.
Étienne Dao, donc, pour le duo à tes côtés, mixé par Philippe Sdar. Comment est née cette collaboration, Malik?
On s'est rencontrés il y a 2 ans et demi à un festival qui est le Midi Festival à la Villa Noailles, lieu très beau, pour la mode aussi, pas mal de choses. Et on s'est rencontrés après un concert où je jouais, et tout de suite ça a matché, une certaine amitié qui est née, et ça nous arrive de nous voir, et il est venu à Poitiers, ma ville natale, on jouait au tap, et je lui ai proposé de chanter une de mes chansons qui est Sous Garantie. Étienne Dao étant très gentil, a accepté. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas faire un morceau ensemble. Et j'avais ce morceau en tête pour Étienne Dao depuis un petit moment, et je lui ai proposé. Et Étienne Dao a accepté.
Pour cet album, vous avez également travaillé avec Ash Walkman, producteur de Métronomie, de Chris, ou encore de François and the Atlas Mountain. Qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Il m'a apporté... Moi, je suis resté assez seul, solitaire, enfin... Je vois quand même, je suis souvent entouré, mais quand je fais de la musique, je suis assez seul. J'aime bien cette solitude pour créer. Et il m'a apporté que je déléguais quelque chose. C'est pas mon métier d'être mixeur. Et il m'a apporté ça. Il m'a apporté aussi le voyage vers l'Angleterre.
Et à Margate.
À Margate, qui est un lieu quand même atypique. Et il m'a apporté beaucoup de confiance. Je lui ai donné beaucoup de confiance. C'était vraiment un travail collaboratif. Et puis aller se confronter au son anglais, quoi. Enfin, je faisais pas le malin. Et cet homme est adorable. Et c'était vraiment un travail ensemble, génial.
Le magazine Poly parle d'un album, je cite, un album de pop synthétique ayant un goût de miel, mais inhalant de belles sueurs, avec des mots bleus et de la folie douce. Vous vous retrouvez là-dedans?
Oui, parce que c'est des titres qu'ils ont employés. Ouais. Oui, je me retrouve assez.
Mais on s'amuse souvent ici dans cette émission à reprendre un peu les phrases toutes faites comme ça des journalistes de musique, mais pas que de musique. Les journalistes de mode aussi, ils sont inspirés, ils sont un peu, non?
Ouais, je crois que vous nous l'avez déjà un peu raconté tout à l'heure, non?
Oui, puis on le fait régulièrement avec Loïc Prigent.
Ouais. On note aussi, Malik, que votre album a été enregistré, je cite, « chez moi, au-dessus de chez Michel, à Poitiers ». Fin de citation. Un studio très réputé. C'est mieux que Margate?
Non, du tout. En fait, c'est parce que, pour la petite histoire, chez Michel, c'est le bar-restaurant de mon cousin.
Petite promo.
Carrément. Et c'est un endroit où je vais boire mon café, où j'allais boire mon café. Et dédicace à mon cousin Victor.
Victor.
Comment ?
Polémique.
Polémique,
oui. Polémique.
C'est-à-dire qu'il y a Hérouville en France et il y a le studio au-dessus de chez Michel à Poitiers.
Ouais,
c'est
les deux. Voilà. D'accord. Vous vous apprêtez à prendre la route ? Vous allez beaucoup jouer cet été ?
Cet été, j'ai une petite pause parce qu'on a beaucoup joué l'an dernier. Mm-hmm. Mais sinon, demain, je pars jouer et là, on va partir jouer assez souvent. Mm-hmm. Voilà. Comme des endroits comme Toulouse demain, en Angleterre la semaine prochaine, ouais. Paris au Trianon le 20 novembre, et on va faire pas mal de dates, et aussi à l'étranger.
Et du plaisir à être sur scène ?
Transformation que j'ai du mal à expliquer, je sais pas, mais oui, énormément de plaisir. Et en commençant la tournée, je me dis, ouf, tous ces concerts, à la fin peut-être ça va être... voilà. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire, à jouer, et c'est vraiment un truc qui se passe, je ne pourrais pas l'expliquer, mais beaucoup d'adrénaline, et c'est un plaisir de faire ce métier.
Et ben vous allez nous le reprouver dans quelques instants. Ah, Malik, Judy, Marine Serre, il y a un lien entre vous deux, car Malik fait lui aussi de l'upcycling de pop culture, et il s'apprête à nous le prouver pas plus tard que tout de suite avec une version remasterisée de Boys, 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 le titre de Sabrina. Souvenez-vous, en live sur la scène de Pop, Pop, Pop. Alors une fois encore, dès que vous êtes prêts, vous me faites signe. Ok, et c'est parti.
Sing, sun shines down, so come to town, set your body free. Hold me tight, my love, tonight, tell me you believe. Every Monday in summertime love, you remember me. Every Monday, summertime love, be my lover, be my baby, be my baby. Sing boys, 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 boys. Sing boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 get ready for my love. Boys, 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 I'm looking for a good time.
Bravo! Boys, boys,
tout
boys!
Tout ça sans Nip Slip, c'est incroyable!
Oui, remasterisé ici par Malik Judy en live sur France Inter dans Pop Pop Pop. Merci Malik, mais remontez votre bretelle de soutien-gorge parce qu'on on voit votre téton. Ah. Merci. Merci Malik. Judy, Tempérament, votre deuxième album sort demain. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert donc à Toulouse, le 29 à Strasbourg, le 4 à Nancy, le 10 à Lille, le 20 novembre prochain au Trianon à Paris. Voilà pour les dates françaises. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission. Merci Marine Serre d'avoir accepté notre invitation. Votre collection Homme est disponible depuis une semaine sur les internets. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Nicolas Cazot, Maxime Ingrand, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, lui.
And I'm not going. I wouldn't give up my family for anything.
Mais
not
oui.
For all the chocolates in the world.
Le Charlie de Charlie et la chocolaterie, alias Freddy Highmore, qui a bien grandi, sera avec nous. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos toilettes sèches sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Ouais, vous l'avez dit.
Et suivez-nous sur les internets. Ghislain Fontanus, comme disent les millions.
Charline,
pop, 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 sur Instagram et Twitter.